Loïc Tassé.
Bonjour.
Ça va?
Oui, moi ça va bien.
Très bien. Alors parlons un peu des suites donc de l'affaire Khashoggi parce qu'on l'a bien couvert toi et moi, puis
oui.
Je souhaite qu'on continue à aller au bout de cette histoire-là. Donc Khashoggi, donc ce journaliste saoudien assassiné, je vous le rappelle, au consulat saoudien d'Istanbul. On n'a toujours pas retrouvé le corps.
On n'a pas retrouvé le corps. Et tu sais, je t'avais dit, d'après ce qu'avaient dit des journaux turcs, ça serait dans le puits qui est dans le jardin de la résidence du consul. Ben, on n'en entend plus parler. Il semble que non. Et en fait...
Quoi? Ils sont allés voir dans le puits, puis ils n'ont pas trouvé le corps?
On n'en entend pas parler. Et il semble que, on le sait, les autorités turques ont posé trois questions, en fait, aux autorités saoudiennes, parce que il y a le procureur d'Arabie Saoudite qui s'est rendu là. Et ils ont dit, d'abord, où est le corps? C'est pas. Qui a planifié ça? Est-ce que vous avez trouvé des preuves de planification? Est-ce que c'est prémédité? Est-ce que vous avez trouvé des preuves de ça? C'est pas. Et qui sont vos collaborateurs locaux? On vous le dit pas. Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient donné le corps de Khashoggi à des collaborateurs locaux en Turquie.
Les Saoudiens ont dit
Les Saoudiens ont
dit ça. Donc, est-ce qu'ils ont confirmé, les Saoudiens, qu'ils ont démembré le corps à l'intérieur du consulat et qu'ils l'ont donné?
Non, ils n'ont rien confirmé. Mais aujourd'hui, les autorités turques, le procureur turc a dit « Oui, il a été étranglé très rapidement à l'intérieur du consulat et il a été démembré. »
Qui a dit ça?
C'est le procureur turc qui a dit ça.
OK.
Donc ça,
On peut se fier sur lui?
Ben,
parce
oui.
que c'est quoi toutes les histoires autour de la torture puis du fait qu'il aurait été...
Ils disent pas que c'est... Il aurait pu être torturé, mais on dit rapidement, il a été étranglé. Ben, qu'est-ce que ça veut dire rapidement après quelques dizaines de minutes? Après, tu sais,
bon,
on ne sait pas.
OK. Ça, c'est là où on en est présentement.
C'est là où on en est.
Maintenant, les relations entre la Turquie et l'Arabie Saoudite là-dedans, parce que faut surveiller ça. C'est l'Arabie Saoudite est vraiment une puissance régionale
mm-hmm.
qui se veut leader dans le fond de la communauté chiite.
Hein, oui.
Mais la Turquie, Erdogan.
L'Arabie Saoudite est leader de la communauté sunnite.
Oui, bien sûr, sunnite. Et Erdogan et la Turquie souhaitent exercer un leadership régional de plus en plus.
Exactement.
On l'a vu dans le conflit avec la Syrie et l'État islamique.
Un leadership régional, et ça se corse parce qu'il y a des ventes d'armes à travers tout ça aussi. On voit que les deux pays sont en train de s'armer un peu l'un contre l'autre. Tu sais, tu te souviens des fameux S-400? C'est un système de missiles russes extrêmement perfectionné. Je t'en ai parlé, je t'ai dit, l'Inde en a acheté il y a deux
semaines. Ça, c'est pour abattre des avions, hein?
Pour abattre des avions, pour abattre des missiles. C'est vraiment un excellent
système
antimissile. Alors, figure-toi que le gouvernement turc a signé la semaine dernière un contrat avec le gouvernement russe pour lui aussi avoir des S-400.
OK, donc l'Arabie Saoudite a des systèmes S-400, des systèmes solaires pour abattre, par exemple, des avions hostiles.
Oui, l'Arabie Saoudite en a acheté l'année dernière, en 2017.
Et là, la Turquie en achète.
La Turquie en achète, vient d'en acheter. Et la Turquie rajoute, nous allons aussi faire nos propres systèmes d'armement, nos propres missiles, d'ici 2021. Ils viennent d'annoncer ça aujourd'hui.
Okay.
Erdogan vient d'annoncer ça.
Est-ce que c'est envisageable que ça se détériore entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, à un point tel qu'il y a un conflit entre ces deux pays-là? Je te pose vraiment une question très ouverte, j'en ai aucune idée.
La Turquie veut... Je ne vais pas te répondre directement. Oui, c'est envisageable en théorie, d'accord? Tout est envisageable en théorie, ils sont armés, c'est possible. Je ne pense pas que ce soit l'intention des deux pays pour le moment. Mais ce qui est certain, c'est qu'Erdogan a une ambition régionale extrêmement forte. Et c'est certain que Erdogan essaie de reconstruire le vieil empire ottoman. Le vieil empire ottoman qui était sur les territoires de la Syrie, au Liban, qui descendait
jusqu'en Arabie Saoudite.
Alors oui, théoriquement, étant donné que Erdogan a cette volonté affirmée, il veut aussi qu'il y ait plus d'enfants, n'est-ce pas, en Turquie, il veut que la natalité augmente. Donc on voit bien
qu'il y a une attitude, je dirais, quasiment impérialiste.
Impérialiste guerrière. Et c'est sûr que... Je ne pense pas que l'Arabie saoudite se sente menacée par la Turquie en ce moment.
Quand même une bonne distance là,
oui.
Physique.
Mais il y a des alliés et c'est sûr qu'on a un leader en Arabie saoudite, le prince Mohammed bin Salman, qui est très agressif.
Oui, notamment au Yémen.
Au Yémen notamment. Et ça va mal au Yémen. Pour lui, parce que les États-Unis ont dit, écoutez, là, faut arrêter cette guerre au Yémen. Et tu as Pompeo qui est sorti aujourd'hui.
Secrétaire d'État
qui a dit... On s'attend à ce qu'il y ait des négociations d'ici 30 jours. On voudrait que cette guerre cesse parce qu'il y a une famine qui s'en vient. On en a parlé.
Oui.
Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais on sait qu'il y a une famine qui s'en vient qui pourrait toucher presque une dizaine de millions de personnes.
Il pourrait
y
avoir une très, très grave.
Très grave.
Il y a déjà une crise humanitaire qui pourrait empiré de beaucoup là, oui, au Yémen. Et c'est un conflit, évidemment, dans lequel l'Arabie saoudite joue un rôle
important,
déterminant.
Important. Ouais. Et donc, en ce moment, les alliances envers l'Arabie saoudite sont en train de se désintégrer petit à petit.
Ils larguent.
De se distendre, ouais, disons. Parce que même, donc, les Américains ne sont pas contents. Donc, en effet, ils veulent qu'ils terminent cette guerre au Yémen. Et même en France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré qu'il n'écartait pas l'imposition de sanctions contre l'Arabie saoudite.
Ça, j'y crois pas, moi.
Oui, il a rajouté, il faut attendre le résultat de l'enquête.
Ouais, c'est ça.
Donc, mais quand même, il a dit, la vérité n'est pas au rendez-vous. Et vous savez, l'Arabie saoudite représente 7% des exportations d'armes françaises. Donc, oui, sous-entendu, ça nous ferait mal, mais on peut s'en passer.
Je crois pas ça une minute. Ils sont en train de se donner un rapport de force. Ils représentent 7% des achats d'armes. Ils vont dire, OK, si vous en achetez encore un petit peu, là, si on monte ça à 10%, on va vous laisser tranquille.
Écoute,
je te dis, je suis assez cynique là-dessus. Là.
Je pense que c'est de la négociation aussi. Là-dessus, oui. Je te l'ai dit dès le départ. À mon avis, toute cette histoire de Khashoggi, c'est un prétexte pour les alliés de l'Arabie saoudite de demander plus d'achats de la part de l'Arabie saoudite dans leur pays.
Là-dessus, on s'entend. OK, parle-nous de ce qui se passe au Danemark qui accuse, parce qu'on parlait de l'Iran, le Danemark qui accuse l'Iran d'avoir perpétré un acte terroriste sur son territoire, c'est
oui,
très grave.
Oui, d'avoir voulu faire ça, c'est très grave et c'est sorti hier en milieu d'après-midi, donc c'était après qu'on soit en onde. Et c'est un homme, en fait, il visait un homme d'origine iranienne. C'est un homme d'origine iranienne avec la nationalité norvégienne qui a été arrêté le 21 octobre dans cette affaire-là. L'homme aurait été vu en train de prendre des photos de la maison d'un leader séparatiste iranien qui réside au Danemark.
Okay.
Et c'est le leader du mouvement de lutte arabe pour la libération de Lavaz. Et donc, le Danemark traite ça de manière très, très sérieuse.
Lavaz, c'est la région ouest de l'Iran,
oui,
où il y a un mouvement autonomiste.
Il y a un mouvement autonomiste là, tu fais bien de le dire.
Okay.
Et le Danemark a rappelé son ambassadeur d'Iran pour consultation. Et il est en train de discuter avec des pays européens pour imposer des sanctions communes contre l'Iran dans cette histoire-là.
L'Iran qui est un gros acheteur de produits européens, notamment des Airbus.
Oui, et regarde bien comment ça se produit ici. Vendredi dernier, la France, elle, a expulsé un diplomate iranien qui, en relation avec un complot, parce qu'il aurait voulu, il y aurait un complot pour une attaque à la bombe dans une réunion d'opposants iraniens en France. Mais que fait le gouvernement français? Est-ce qu'il fait une conférence de presse là-dessus? Non, il expulse un diplomate. Pourquoi? Parce que précisément, comme tu viens de le dire, la France a des relations commerciales très importante avec l'Iran. Et ici, on met le doigt sur un sujet qui est un vrai problème dans l'Union européenne, c'est que les petits pays de l'Union européenne ont plus de votes que les grands pays de l'Union européenne, et les petits pays de l'Union européenne sont en train d'essayer de forcer les grands pays de l'Union européenne à avoir des politiques étrangères qui vont contre les intérêts de ces grandes politiques étrangères.
Ah, oui.
Et c'est ça tout le problème qui est au cœur de l'Europe. Ces petits pays qui veulent avoir autant de place que les grands, et c'est pour ça que l'Europe fonctionne pas dans certains domaines en ce moment.
Ouais, c'est pour
et là,
ça.
On a un bel exemple de ça, ouais, de ce genre de problème dans ce domaine.
Dans le fond, tu vois un certain nombre de petits pays européens qui voudraient, par exemple, avoir une politique étrangère plus respectueuse, mettons, des droits de la personne envers des pays comme l'Iran. Alors, ils se coalisent.
Exact.
Et là, pour essayer d'amener l'Europe à un endroit, et là, tu as des pays comme la France, par exemple, ou l'Allemagne.
Ou l'Italie.
Qui ont des gros intérêts économiques dans les pays visés par...
disent, avant de prendre des sanctions,
ouais,
on va se parler.
Ou on va faire une enquête.
On va faire une enquête. Exactement.
Oui, aïe, aïe. Après ça, on se demande pourquoi l'Union européenne est paralysée par ses divisions internes. Merci, Loïc Tassé.
C'est un plaisir.
Dans un instant, Paul Oud qui s'en vient nous parler de l'Halloween.